I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. L'élection d'Éric Coquerel à la tête de la commission des finances illustre au fond ce que sont les hommes politiques issus de Renaissance, des Républicains ou du groupuscule Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire, groupuscule emmené par Charles de Courson. Ces hommes et femmes de droite et de centre-droit ont préféré élire M. Coquerel, président de la Commission. Éric Coquerel, ancien membre de la Ligue communiste révolutionnaire. Éric Coquerel, adversaire de nos institutions, de notre modèle, de notre histoire. Éric Coquerel, qui a théorisé pour Jean-Luc Mélenchon le rapprochement avec l'électorat musulman de France, au point où l'étiquette d'islamo-gauchiste lui colle désormais à la peau. Éric Coquerel, qui affirme son soutien à Georges Ibrahim Abdallah, condamné à perpétuité pour complicité dans l'assassinat de diplomates israéliens et américains à Paris. C'est cet homme qu'ont préféré élire les députés de Renaissance, les députés des Républicains, plutôt qu'imaginer une alliance de circonstances avec les députés du Rassemblement National. La duplicité, la couardise, l'irresponsabilité et le cynisme aussi de ces députés qui trahissent sans doute leurs propres électeurs restera comme un marqueur et un révélateur de ce début de mandature. Il est 9h02. Les informations, la Minute Info.
Le Covid continue en forte progression. Hier, 133 346 nouveaux cas ont été confirmés. 15 836 patients sont hospitalisés en 24 heures. 42 décès ont été enregistrés. Le pic de cette septième vague est prévu pour la mi-juillet. Fin du procès du violeur de la Sambre. Après 30 ans de viol et d'agression sexuelle, la cour d'assises du Nord rend aujourd'hui son verdict au procès de Dino Scala. Le parquet a requis la peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle à l'encontre de l'homme de 61 ans. Et puis au moins 17 morts et plus d'une trentaine de blessés lors des nouvelles frappes à Odessa. Des missiles ont été tirés par des avions russes sur des immeubles dans cette ville du sud de l'Ukraine. Les opérations de sauvetage se poursuivent malgré les incendies dans les bâtiments.
Nathan Dever, Laurent Geoffrin, Georges Fenech, Joseph Massescaron, merci d'être avec nous. On va donc parler de cette...
Je peux dire un mot de votre exergue ?
Ben on va en parler, bien sûr. Mais évidemment, c'est très intéressant. On est là même pour ça. On est là pour ça. On va parler de cette commission des finances. C'est un peu compliqué, donc je vais d'abord dire... La commission des finances, c'est simple. Je l'ai sous les yeux. Renaissance, c'est 22 membres. Ils n'ont pas pris part au vote.
Oui, 22 membres. C'est habituel.
C'est ça. Quoi, c'est habituel. Ils auraient pu faire autrement. Habituel. Le Rassemblement national, c'est 11 membres. La France insoumise, c'est 10 membres. Les Républicains, c'est 8 membres. Le Modem, qui n'a pas pris part au vote, c'est 6 membres. Socialistes et apparentés, c'est 4 membres. Horizon et apparentés, c'est 4 membres. Tout ça n'a pas pris part au vote. Écologistes, c'est 3 membres. Ils ont pris part au vote puisqu'ils sont dans la NUPES. Gauche, démocrate et républicaine, c'est 3 membres. Et Liberté, Indépendant, Outre-mer, c'est 2 membres. Donc voilà. Après, chacun, c'est ça, la responsabilité des uns et des autres.
Ils ont trahi, je ne sais qui.
Je pense qu'ils ont trahi leurs électeurs.
Je peux terminer. Oui. Ils ont trahi personne. Ils ont considéré que la droite et l'extrême droite c'était différent, et donc ils se sont distingués. Voilà, c'est ça la raison. Et ils considèrent que le Rassemblement national n'est pas un parti comme les autres. C'est eux, hein, pas que moi. Il considère que donc dans ce cas-là, il vaut mieux prendre quelqu'un de la gauche, comme ça, on reste dans le...
C'est pas quelqu'un de la gauche, Éric Coquerel.
Enfin, la gauche radicale, oui, c'est de la gauche radicale.
Mais c'est pas la même chose. Oui. C'est quelqu'un qui est contre nos institutions.
Il ne veut les changer, oui.
Contre notre modèle.
C'est pas un crime de vouloir...
Contre notre modèle, Ligue.
Je réponds sur chaque point. Oui. Il veut une autre République.
D'accord. Bon, d'accord. Contre notre modèle.
Comme il y en a d'autres.
Notre modèle.
Quel modèle ?
Le modèle libéral qui est en place en France, nos démocraties libérales, c'est un communiste révolutionnaire.
Non, pas du tout. Parce que vous dites il est de la Ligue communiste. Non, il est de LFI, c'est pas pareil.
Il vient de la Ligue communiste révolutionnaire.
Il vient d'eux, d'accord.
Ah oui, alors quand...
Il vient d'eux, c'est pas...
Quand Jean-Marie Le Pen, c'est bien, quand Jean-Marie Le Pen venait... ou quand le Rassemblement national vient de Jean-Marie Le Pen, là, on fait une comparaison pour Marine Le Pen parce qu'elle vient de ce parti-là. Mais lorsque M. Coquerel vient de la Ligue révolutionnaire, on dit lui, il a évolué.
Il faut lire les programmes des deux. D'aujourd'hui.
Mais après, je vous dis, moi, chacun... moi, c'est factuel, hein, ce que je dis. Alors, simplement, pour le premier tour...
C'était un commentaire politique.
Oui, non, mais je suis pas d'accord.
Simplement, pour donner le premier tour, Éric Coquerel, 20 voix. Premier tour.
On a compris.
Oui, mais les gens, ils n'ont pas compris. Pardonnez-moi. Les gens, ils ne sont pas comme vous. C'est très compliqué, cette commission des finances. Éric Coquerel, 20 voix, premier tour. Jean-Philippe Tanguy, 11 voix. Véronique Louwagie, 8 voix. Charles de Courson, 2 voix. Voilà. Donc, par exemple, et c'est assez simple à comprendre, si Jean-Philippe Tanguy, Véronique Louwagie et Charles de Courson se mettent d'accord, tous les trois, ils battent LFI. C'est très simple. Bon, résultat. Ben, parce qu'ils auraient pu imaginer.
Deuxième
tour.
C'est votre ligne politique à vous, c'est pas
ma ligne politique à moi. Si. Je dis, j'ai aucune ligne politique. Deuxième tour, Éric Coquerel, 20 voix, Jean-Philippe Tanguy, 11 voix, Véronique Louwagie, 8 voix, Charles de Courson, 2 voix. C'est exactement le même tour. Et puis troisième tour. Manifestement, Charles de Courson se retire, Éric Coquerel 10 voix, Jean-Philippe Tanguy 11 voix et Véronique Louwagie 9 voix. C'est pas 10 voix le troisième tour, c'est 21 voix, 21 voix pour Éric Coquerel, donc une voix d'avance puisque sans doute...
Charles de Courson
ou...
Charles de Courson.
Non, Charles de Courson ou pour tout vous dire, Michel Castellani. De Haute-Corse, puisque c'est les deux voies de Liberté, Indépendant.
Oui, mais vu les déclarations de Charles de Courson, c'est vraisemblablement Charles de Courson.
Je le dis pour Samuel Vasselin, on peut voir l'image qui a été prise hier par les caméras de CNews, où M. de Courson appelle Jean-Luc Mélenchon. On va ressortir cette petite séquence. La parole est à Georges Fedek.
Oui, moi je ne suis pas, permettrai de le dire, d'accord avec la présentation... dites factuel que vous avez fait de cette élection. Vous dites, en gros, je caricature pas, vous dites, finalement, le groupe LR a préféré élire le représentant de LFI à la présidence. Je suis pas du tout d'accord avec cette présentation.
Je n'ai pas dit ça, j'ai dit Renaissance, Républicain, Liberté, Indépendant ont préféré.
Non, ben justement, je ne suis pas d'accord avec cette présentation des choses. En réalité, ben, vous avez rappelé les scores... LR n'a fait que voter pour LR, n'a pas voté pour LFI. Il se trouve que le groupe, l'intergroupe, donc NUPES, avait une majorité à la commission.
Non.
Et vous dites, ils ont préféré par rapport, ils auraient pu faire élire un représentant du Rassemblement
national. Georges, les gens,
je ne suis pas d'accord.
C'est parce que vous n'êtes pas d'accord, j'ai envie de dire, si j'étais méchant, que vous en êtes là où vous en êtes.
Non.
Les gens, ils ont bien compris.
Non, j'accepte.
Ils ont bien compris que vous préférez Éric Coquerel.
Pascal.
Ils ont bien compris que vous préférez Éric Coquerel à quelqu'un du Rassemblement national.
Je n'ai pas dit ça.
Mais
je ne préfère ni l'un ni l'autre.
Ah ben oui, ah, vous
ni
préférez
l'un,
pas
ni
eh ben,
l'un,
eh ben,
ni
ils ont,
l'autre.
Eh bien, demandez à vos électeurs ce qu'ils en pensent.
Ben, écoutez, les électeurs ont voté aux législatives.
Demandez à vos électeurs ce qu'ils en pensent.
Aujourd'hui, on a le résultat.
Demandez à vos électeurs ce qu'ils en pensent dans un choix comme ça, s'ils préfèrent.
Il n'y aura pas d'alliance. Il n'y aura jamais d'alliance entre LR et le Rassemblement national. C'est clair, je crois.
Vous savez, des électeurs, vous prévalez de choses que vous ne connaissez pas.
Jean-Philippe Tanguy.
Il y a des gens de droite qui ne sont pas d'extrême droite, ça existe, je vous assure. Hein.
Vous, la même histoire,
vous êtes de droite et d'extrême droite, on l'a bien compris, mais il y a des gens qui sont différents.
Ouais. Mon Dieu, je ne vais pas répondre aux attaques personnelles.
Mais ce n'est pas une attaque personnelle.
Bon, écoutez juste la petite séquence
politique.
Charles de Courson.
Oui, parce que.
Écoutez la petite séquence Charles de Courson.
Il faudrait qu'on donne les faits d'abord. On commence par donner les faits.
Écoutez Charles de Courson.
Non.
Joseph Massesca.
Je voudrais juste donner les faits, parce qu'il y a eu, en effet, il y a eu un accord, qui est, je suis désolé, entre le Rassemblement national et les Républicains,
évidemment,
pour porter leur suffrage sur Charles de Courson. Charles de Courson, il a une légitimité.
Il a une légitimité. Tout le monde sait, tous les journalistes économiques le savent, et ils vont, ou financiers, ils vont le voir en permanence parce qu'il a, une bonne vision, je veux dire, macroéconomique des choses. Maintenant, c'est Charles de Courson qui lui-même a préféré en disant « Bah non, je ne veux pas en effet d'alliance, je ne veux pas avoir de voix du Rassemblement national, comme au moment des souvenez-vous, comme au moment des régionales. Exactement comme au moment des régionales. Le problème, c'est qu'on ne se retrouve pas avec le même type d'adversaire. On ne se retrouve pas du tout avec le même type d'adversaire. Et que Charles de Courson a une vision, à mon sens, un peu faussée. Je rappelle quand même que le même Charles de Courson considère que le gouvernement d'Emmanuel Macron, il l'a dit en 2019, c'est Vichy. Alors pardonnez-moi, mais quelqu'un qui considère que le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est Vichy, qu'il considère que le Rassemblement national est proto-fasciste, on peut quand même émettre l'ombre de l'esquisse du canevas d'un doute. Hein, quand on a un minimum de raisons politiques.
Maintenant, pas, vous sortez cet accord entre l'air et Rassemblement
tout simplement,
national.
Tout simplement,
faire élire Charles de Courson.
Simplement les journalistes. Lisez la presse.
Vous voulez que je cite un député, ce que j'ai eu ce matin, une députée qui m'a dit très clairement les Républicains auraient voté pour le Rassemblement national, le candidat du Rassemblement national. Bah, elle me l'a dit en direct, donc je veux bien citer son nom. Elle me l'a dit il y a une demi-heure. C'est une femme qui est députée dans le sud de la France. Oui. Donc je ne vais pas citer son nom.
Elle n'est pas membre de la commission des finances.
Il y avait un accord, pardonnez-moi, pour que il y ait une sorte de tournant à trois entre le Charles de Courson, Tanguy du Rassemblement national et la candidate des Républicains. Voilà. Je donne des faits. Je me condamne de donner des faits. Je ne suis pas dans la théorie.
Renaissance, quand j'ai parlé, j'ai mis tout le monde dans le même sac. Renaissance, il y a un vrai cynisme. Pourquoi Renaissance ne participe pas au vote ? Pour jouer le chaos. C'est ça la vérité.
Pas du tout, c'est dans le règlement de l'Assemblée nationale, article 39 aujourd'hui, la majorité ne participe pas au vote, elle laisse à l'opposition, à un député de l'opposition prendre la présidence.
Prenez en compte ce qu'il dit quand même.
Mais c'est dans le règlement de l'Assemblée nationale.
C'est un règlement, ça ne veut rien dire.
Mais comment ça ne veut rien dire ?
Ça ne veut rien dire, vous êtes obligé de respecter le règlement.
Depuis 2009, vous avez un nouveau règlement qui est appliqué depuis cette époque-là, où la majorité ne se mêle pas de ce vote, c'est clair.
Ben oui. C'est-à-dire que tu votes pour des gens qui ne votent pas pour derrière pour un président de commission. Enfin, et après, vous vous étonnez que les gens ne votent plus. Mais vous n'êtes pas sérieux, Georges Fenech, sur ce sujet. Non, mais je vous le dis gentiment.
Je vous renvoie la balle, Pascal.
Mais non, vous n'êtes pas sérieux parce que c'est ça la trahison des électeurs.
Il n'y a aucune trahison.
Allez dans la rue,
ça ne veut rien dire.
Comme si vous
connaissiez bien la rue plus que nous. C'est ridicule.
J'ai entendu hier, j'ai juste à écouter les électeurs.
En l'occurrence, il ne s'agissait pas d'alliance.
Si les électeurs veulent voter pour l'Assemblée nationale, ils votent pour l'Assemblée nationale.
Georges Fenech,
il ne s'agissait pas d'alliance,
il s'agissait d'acceptation ou non du fait que le Rassemblement national vote pour Charles de Courson. On a préféré à cette situation, en effet, de voter pour monsieur Éric Coquerel. Éric Coquerel, quand même,
comme l'a rappelé très justement Pascal Praud,
je ne suis pas heureux qu'Éric Coquerel soit président de la commission des finances.
Bah si, apparemment si. Un tout petit peu d'histoire politique, ça ne fait pas de mal.
Vous êtes complètement hors sol.
Éric Coquerel.
Je vous assure, les Républicains aujourd'hui, vous êtes hors sol. Pardonnez-moi de vous le dire comme ça.
Quelqu'un avant moi a dit
qu'il valait mieux perdre une élection que de perdre son âme. Eh bien, voilà.
Non, mais ça, c'est autre chose.
Vous ne voulez pas qu'on se saborde au profit du Rassemblement national qui ne veut
pas le problème. Vous préférez, je le répète, vous préférez.
Je ne préfère ni l'un ni l'autre.
Non, mais attendez, juste. On a parlé des régionales. C'est bien de ne pas avoir la mémoire de poisson rouge. On a parlé des régionales. Régionales où M. Soisson, ministre de François Mitterrand, acceptait les voix du Front National. C'est fait élire avec le Front National. Et là, sur quelque chose d'absolument aussi essentiel que la présidente de la Commission des Finances, on considère que Charles de Courson n'a pas à recevoir les voix du Front National, du Rassemblement National.
Mais dans quel univers on vit ?
Alors que M. Coquerel, comme l'a rappelé Pascal Praud, est à l'origine du changement à 180 degrés pratiquement de Jean-Luc Mélenchon, qui est passé d'une personne qui était totalement remarquable, qui était un républicain, qui s'appelait M. Delapierre, pour le citer, qui est mort trop tôt, pour passer aux divagations politiques de M. Éric Coquerel. M. Éric Coquerel, c'est pas la gauche radicale, c'est pas vrai. C'est l'extrême gauche de l'extrême gauche.
Il était élu pour un an. Président de la commission des finances, c'est le symptôme d'un moment de clarification politique qui va avoir lieu dans cette législature. Parce que ce qu'on observe est très intéressant. Vous avez une majorité qui, pendant 5 ans, a toujours refusé de trancher entre... Est-ce qu'elle est plus, enfin, entre l'extrême gauche et l'extrême droite, de qui elle devrait se sentir le plus proche si elle devait choisir ? Macron a toujours envoyé des signaux très contradictoires là-dessus. Il y a des moments où il disait à Mélenchon que Marine Le Pen était son ennemi et Mélenchon son adversaire. Inversement, parfois, il disait à Marine Le Pen qu'elle était trop molle. Enfin, bref, il n'y avait pas de clarification. Et là, ils vont devoir clarifier. Alors, vous citez cet événement, mais il y en a eu un autre qui a eu lieu. C'est l'élection des vice-présidents, où les députés de la majorité se sont quand même abstenus. Enfin, on sait quand même qu'ils ont laissé faire en sorte qu'il y ait deux vice-présidents qui soient du Rassemblement national. Je pense qu'il va y avoir cette clarification dans 5 ans. Et mon pari, c'est qu'à mon avis, entre les deux, il y a un grand nombre de macronistes qui, de manière plus ou moins assumée, vont être plus proches du Rassemblement national que de LFI.
En tout cas, nous allons marquer la minute info, puisqu'il est 9h15, et après on écoutera M. Coquerel, M. Bardella, M. Ménard, Éric Woerth. Il y a beaucoup de réactions qui sont très passionnantes. D'ailleurs, parce que je trouve que c'est un sujet absolument passionnant, Georges Fenech.
Oui, mais ne déformez pas ce qu'est la volonté des LR, qui n'a jamais souhaité que Éric Coquerel... soit président de la commission. C'est le résultat d'un vote démocratique.
J'ai bien compris, et tout le monde en est persuadé. Oui. Tous ceux qui nous écoutent, ils ont bien compris depuis hier soir.
Ils sont pas obligés, ils sont d'accord avec vous. Vous voulez absolument les obliger à s'allier avec l'extrême droite. Vous avez une ligne politique mais bizarre. Bon, quand même.
D'abord,
pourquoi vous voulez les obliger? Vous les traitez de traîtres parce qu'ils ne s'allient pas avec l'Assemblée nationale.
Général de Gaulle,
ils ont le droit d'exister quand même. Ils ont le droit d'avoir des idées différentes des vôtres.
Jamais l'alliance avec le Rassemblement
national. Laurent, je n'oblige personne.
Vous faites une injonction morale en disant vous avez trahi.
Je vous dis que vous préférez
au Rassemblement national. Non, on ne préfère ni l'un ni l'autre. Pardon.
Mais sérieusement, vous mettez Éric Coquerel sur le même plan que Marine Le Pen? Ça m'intéresse.
Mais ça m'intéresse. Je suis aussi éloigné.
Ah,
de l'un comme de l'autre.
Oui. Non, mais il ne s'agit pas de Michael
Dos Santos. Michael Dos Santos.
L'épouse d'un chasseur mis en examen 27 ans après le meurtre de son mari. L'homme avait été retrouvé décapité dans l'Allier. La femme de 56 ans ne reconnaît pas les faits malgré des indices graves et concordants. Une dispute pour un sèche-cheveux avait éclaté le soir même. Les investigations se poursuivent. C'est l'une des nouveautés de ce 1er juillet. Les nouvelles voitures sont obligatoirement équipées de boîtes noires. Cela vise à enregistrer des données de vitesse, le port de la ceinture ou encore la force de collision avant et après un accident. Des mesures utiles lors des enquêtes. Et puis top départ de la 109e édition du Tour de France. Ce vendredi, les cyclistes vont s'élancer depuis Copenhague pour la première étape, un contre-la-montre de 13,2 km. Les favoris pour la grande boucle, les Slovènes Pogacar et Roglic.
Le sujet de Mathilde Ibanez, si vous le voulez, avant d'écouter des réactions.
Une élection très mouvementée à l'Assemblée nationale. Éric Coquerel a été élu président de la Commission des Finances, un poste stratégique très convoité, notamment par le groupe du Rassemblement national, qui a tenté d'empêcher le député de la France insoumise d'accéder à ce statut, en souhaitant une alliance avec les Républicains.
Je pense que laisser l'extrême gauche de l'extrême gauche à la tête de cette commission, qui est une commission extrêmement sensible, est un signal qui est un signal inquiétant pour l'avenir.
Pour le député du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy, ce résultat est trompé.
J'ai dit qu'ils avaient triché dans la présentation de leur candidat et dans le refus de voir que nous étions le principal groupe d'opposition.
D'autres députés membres de la NUPES, eux, ont montré leur soutien au nouveau président de la Commission des Finances.
Il n'y a pas eu de bug. Je vais juste me réjouir du résultat qui est conforme à ce que nous avions décidé.
On est aussi très heureux que Éric Coquerel soit aujourd'hui président de la Commission des Finances, sans qu'il ne manque aucune voix de la NUPES.
Ce poste, tant convoité, donne de nombreux pouvoirs, comme celui de convoquer le ministre de l'Économie et des Finances, ou bien de lever le secret fiscal pour un citoyen ou une entreprise.
Mais on sait le faire dans le cadre de la démocratie.
Alors, pendant que nous parlons, je reçois un texto que je vais vous lire de M. Di Filippo, qui était manifestement M. Di Filippo qui était dans cette commission hier. Monsieur Di Filippo, républicain, et qui me dit préciser que j'ai souhaité que nous votions tous pour Charles de Courson.
Bien sûr,
c'est tous ce que je pour Charles de Courson, évidemment. Afin d'éviter Coquerel. Donc lui, manifestement, il choisit, contrairement voilà.
Il s'est retiré.
Non.
Non, c'est Charles de Courson, s'est retiré.
Non. Oui, mais
manifestement, Di Filippo, il n'est pas sur votre ligne. Lui, il choisit.
Oui. Mais non, la majorité des Républicains ne sont pas sur cette ligne.
Charles de Courson, ça aurait été très bien.
Oui, mais je vous répète. Et oui. Il dit que c'était le seul à avoir la...
On est sous Vichy.
C'était le seul. C'était le seul, dit Monsieur Di Filippo.
Ça dit Georges Fenech, la mesure de sa compétence politique.
Je termine. Comment dire, c'était le seul à avoir la voix de Monsieur Castellani. C'est pour ça qu'il aurait été élu avec 21 une voix pour battre l'ANUPS. Manifestement, il a refusé. Voilà. Ils ont refusé d'avoir les voix, si j'ai bien compris, du Rassemblement national. Alors, écoutons M. Coquerel, à présent, après son élection.
Je dois dire que je suis satisfait que cette élection ait respecté, j'allais dire, les formes démocratiques du fait que la majorité n'a pas pris part au vote. Comme elle s'y est engagée. C'est donc quelque part, j'allais dire, un mieux par rapport à ce à quoi on a pu assister hier. Et je constate que du coup, de manière normale, quand ça se passe comme ça, eh bien, la plus forte opposition de l'Assemblée se retrouve effectivement en capacité d'avoir les postes qui lui reviennent, et notamment ce poste très politique de président de la Commission des Finances.
Alors, M. Di Filippo me précise, parce que le Rassemblement National a refusé également, c'est ce qu'il me dit, le Rassemblement National a refusé que tout le monde vote pour Charles de Courson. Voilà.
Okay. Ouais, d'accord. Voilà.
Donc,
bon. Il y avait un accord entre.
C'est pas vrai.
Je vais préciser.
Oui.
C'est pas vrai.
Oui.
Je comprends pourquoi LR fait ça, si j'ai bien compris. C'est qu'ils ne veulent pas donner une estrade au Rassemblement national qui ne conspire qu'à sa propre perte. Le Rassemblement national veut détruire la droite et la remplacer.
Bien sûr.
Pourquoi il serait maso? Pourquoi est-ce qu'il se laisserait faire? Il n'y a aucune raison. Il pourrait considérer que vous avez tort, par exemple. Il pourrait considérer que vous avez tort et ils auraient raison.
Il pourrait considérer que M. Coquerel, pour la démocratie, pour nos institutions, pour ses engagements, je termine, est plus dangereux par ses positions que Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Il pourrait considérer cela.
Votre avis à vous. C'est pas l'avis de tout le monde.
J'ai pas dit que c'était.
On est à la commission.
Je vous
des
dis,
finances,
il pourrait, c'est pas mon avis à moi. Si. Mais pourquoi vous dites si?
C'est votre avis que Coquerel est plus dangereux que le Rassemblement national.
Il pourrait considérer que l'islamo-gauchisme promené par Monsieur Coquerel.
Mais ça, c'est une formule polémique.
Il pourrait considérer, par exemple, que défendre Georges Ibrahim Abdallah.
Je ne connais pas cette histoire d'Abdallah, donc
c'est ennuyeux.
Oui, mais enfin, c'est pas l'objet de la commission des finances,
tant que je sache. C'est ennuyeux que quelqu'un défende, qui est député de la République et qui est président d'une commission des finances, défende Georges Ibrahim Abdallah, qui est toujours aujourd'hui en prison depuis 1986.
Sans répondre, je ne connais pas le dossier.
Si vous ne connaissez pas,
sans parler d'islamo-gauchisme.
Mais en revanche, écoutez,
j'essaie de dire un mot. Georges Ibrahim Abdallah, on est à la commission des finances, et que je sache, la NUPES et le Rassemblement national sont par exemple d'accord pour une retraite à 60 ans. On est à la commission des affaires économiques, des affaires financières. Donc moi je dis une seule chose, c'est qu'on est éloigné de
image.
La même manière de ces deux groupes que nous qualifions quand même
De radicaux. Voilà qui aujourd'hui est à la présidence de la commission des finances, une personne qui soutient Georges Ibrahim Abdallah. Voilà. Après, chacun, moi c'est factuel ce que je vous dis là, chacun d'une certaine manière se détermine en fonction des éléments qu'il a. Écoutons Jordan Bardella.
Le premier groupe d'opposition, c'est le Rassemblement National. Et par une des magouilles entre les Républicains et la France Insoumise, on a vu se dégager un axe LR Coquerel. Donc ça va plaire à beaucoup d'électeurs de droite d'apprendre qu'on remet, avec le soutien des Républicains, la présidence de la Commission des Finances, un révolutionnaire de la LCR, c'est-à-dire au pire de l'extrême-gauche, M. Coquerel, qui est l'aile gauche de la France Insoumise, donc l'extrême-gauche de l'extrême-gauche, qui est un militant anti-flic, un communautariste, et quelqu'un qui défend des idées qui sont, je crois, dangereuses pour la démocratie.
Alors, la pause et on revient. On va être dans une seconde avec Sophie de Menton, Mickaël Dos Santos, la Minute Info.
Certaines chaudières sont désormais interdites à la vente dès aujourd'hui, hormis quelques dérogations. Tout équipement neuf fonctionnant au fioul ou au charbon sera exclu du marché. Les appareils déjà installés pourront eux continuer d'être utilisés, entretenus et réparés. L'Ukraine exporte son électricité vers l'Union européenne via la Roumanie, une annonce faite ce jeudi par le président du pays, Volodymyr Zelensky. Une source supplémentaire d'électricité pour l'Union européenne, des revenus indispensables à l'Ukraine, a tweeté la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. Le rapprochement avec les 27 pays membres se confirme. Et puis, Xi Jinping veut maintenir l'autonomie de Hong Kong. Lors d'une visite sur le territoire, le président chinois a assuré qu'il n'y aurait aucune raison de changer le principe « un pays, deux systèmes ». Annexé à la Chine en 1997, l'ancienne autonomie britannique a subi depuis 2 ans une forte répression politique.
On va parler de l'aspect politique, on va parler de l'aspect économique et les conséquences de l'élection de M. Coquerel. On est avec Sophie de Menton qui représente le mouvement éthique. Vous déplorez l'élection d'Éric Coquerel, pas forcément pour les mêmes raisons que nous mettions en avant il y a quelques instants, parce que vous écrivez dans un communiqué que la Commission des finances n'aura pas de réel pouvoir ou bien l'économie et les entreprises françaises seront en danger. Bonjour Madame de Menton, pourquoi pensez-vous que les entreprises et les chefs d'entreprise puissent être en danger?
Bonjour Pascal Pro. Écoutez, j'ai écouté avec énormément d'attention ce que je viens d'entendre dans votre émission. Pardonnez-moi, pour le téléspectateur, ces politiques aériennes sont incompréhensibles. Je dis politiques aériennes parce qu'il faut arriver à comprendre entre les articles, ceux qui votent, ceux qui ne peuvent pas voter, les alliances qui peuvent être faites, etc. C'est incompréhensible. Et pour 3,5 millions de chefs d'entreprise, on vient de mettre à la tête de la commission finance le symbole de celui qui veut couper les têtes des patrons. J'exagère un peu, mais quand même. Nous avons en particulier au mouvement éthique, au moment de l'élection présidentielle, invité tous les candidats. Marine Le Pen est venue, ils sont tous venus, Valérie Pécresse, etc. Mélenchon a dit que jamais il ne viendrait parler à des patrons, c'est intéressant. Et donc, au-delà de ça, c'est une menace. C'est une menace anticapitaliste, antilibérale, anti-argent. Alors c'est vrai que l'argent n'a pas bonne presse en France, mais il en faut bien et les entreprises en gagnent. C'est une menace pour tout ce que nous sommes. Alors, quand vous interrogez des patrons, évidemment, entre deux mots, entre guillemets, tels que vous les définissez, puisqu'il s'agit de deux mots de deux extrémismes, il faut choisir le moindre pour nos entreprises. Je voudrais également vous dire que je n'en peux plus lorsque je dis, franchement, que j'aurais préféré à la Commission des finances le candidat du Rassemblement national, je n'en peux plus d'être traité d'extrême droite, de lepéniste, de tout ce qu'on veut. Ça n'a rien à voir. Je peux vous dire aussi que le Rassemblement national, on est en train de se référer indéfiniment à Jean-Marie Le Pen, qui, c'est vrai, a été un épouvantail et dont il faut critiquer toutes les positions. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le choix entre un parti qui a envie d'ailleurs de respectabilité, celui de Marine Le Pen, qui a envie de pouvoir gouverner, qui n'en peut plus d'avoir été fustigé pendant des années, peut-être à juste titre, hein, et puis un parti qui a décidé d'être révolutionnaire, en dehors des positions politiques que vous avez évoquées, qui sont scandaleuses il y a quelques instants. Donc il y a un moment où la France des entreprises, et la France des entreprises, ça comprend également tous leurs salariés, il n'y a pas d'entreprise sans salariés, il y a un moment où avoir à la tête de la commission des finances un homme qui veut le contraire de tout ce qui est bon pour les entreprises, je ne comprends pas. Et je ne comprends pas non plus qu'à l'Assemblée nationale, quelles que soient les positions de chacun, il n'y ait pas eu quand même une unanimité sur ce thème. Je veux dire, l'économie, c'est quelque chose de fondamental. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il
Sophie
va y avoir...
Sophie de Menton, si je ne vous coupe pas, vous n'arrêterez pas toute seule.
Ouais,
donc, j'en suis désolé, je vous connais, donc on y est jusqu'à 10h30. Donc j'ai compris ce que vous vouliez dire, bien évidemment. Pardonnez-moi cette impolitesse de vous interrompre, mais je sais que vous ne vous interrompez pas toute seule. Donc j'ai compris. Et je vous remercie grandement. C'était un autre angle qui était intéressant de développer. C'est vrai que cette haine de l'argent, disons-le, qu'on retrouve dans la France
insoumise. Mais c'est très intéressant ce que
Madame Demandon devrait se demander pourquoi il y a autant de députés LFI à l'Assemblée. Parce que ce n'est pas par l'opération du Saint-Esprit, c'est parce que des électeurs ont voté pour eux. Et pourquoi les gens votent pour des députés qui sont très critiques à l'égard du système capitaliste et du libéralisme. Pourquoi ? C'est d'où ça sort, ça ?
Mais c'est 20%.
Est-ce que ça ne vient pas ? Est-ce que ça ne vient pas peut-être aussi des défauts de ce système ?
Bien sûr.
Moi, je suis pour l'économie de marché, mais il faut la maîtriser. Il faut la réformer. Madame de Menton a toujours critiqué toute réglementation qui vienne un peu maîtriser l'économie de marché. Elle est contre. C'est son droit. Mais elle ne devrait pas s'étonner que les gens votent ensuite pour des extrêmes.
Nathan Dever.
Madame de Menton a le mérite au moins de la sincérité. C'est-à-dire qu'elle pose la question, qui est en effet la question de la clarification, c'est-à-dire que tous les citoyens peuvent se poser. Si on doit choisir, et si on n'a pas le choix, entre LFI ou le Rassemblement National, de qui choisiriez-vous dans ces cas-là ? Elle dit qu'elle est plus proche de l'extrême droite. C'est sa possibilité. Moi, je rappelle juste une chose. C'est que dans l'histoire de ce pays, l'extrême gauche, son poids, ça a été quoi ? Quand elle n'a jamais vraiment gouverné, mais quand elle a eu du poids politique important, ça a été de rajouter des droits auxquels, dont nous sommes tous les héritiers. Et là, elle les présente, si vous voulez, comme une sorte de menace. On a l'impression que c'est le Front Républicain à l'envers, que c'est 2002 à l'envers. C'est-à-dire le Rassemblement National, maintenant, c'est parfait. C'est un parti presque de gouvernement. Et en face, vous avez les méchants avec le couteau entre les dents. On se croirait dans Tintin chez les soviets. Il ne faut quand même pas exagérer. L'extrême-gauche, vous pouvez me citer un seul moment où l'extrême-gauche a détruit la France dans l'histoire de France, où l'extrême-gauche a mené le pays à la ruine ? Franchement, on peut chercher.
La réponse que je pourrais faire directement à Nathan, c'est qu'il y a toujours eu les digues nécessaires pour justement que cette extrême-gauche-là n'arrive pas au pouvoir. Maintenant, je voudrais prendre un point qui a été soulevé par Sophie de Menton, sur lequel elle a raison. Elle a pointé sur deux aspects. D'abord, le clash permanent de la France insoumise. Parce qu'il est évident que Jean-Luc Mélenchon, il soutient Éric Coquerel par provocation. C'est-à-dire qu'il est en train de tordre le bras à tous les gens de la NUP. C'est-à-dire que c'était un test aussi à l'intérieur de la NUP. Pour les mettre aux ordres, pour les mettre au pas, il a réussi. Donc on va avoir un clash permanent. D'un côté, vous avez ça. De l'autre, vous avez un parti qui recherche la notabilisation. Je veux quand même rappeler aussi, parce que là aussi l'histoire politique est intéressante, que Jean-Marie Le Pen était quelqu'un qui a adoré le parlementarisme. Il a adoré être député, c'est tout.
Allez, dernier mot de conclusion et après on change de sujet.
Je voudrais relativiser, moi, ce dont on est en train de présenter comme une catastrophe. À la Commission des finances, je ne pense pas qu'on évoquera le cas de Georges Ibrahim Abdallah. Je ne pense pas qu'on évoquera le cas de l'islamisme politique. On parlera de quoi ? Du budget.
On parlera de Jérémy Corbyn, que la France insoumise.
Vous permettez, Pascal, que je termine. On ne parlera pas de Jérémy Corbyn non plus. On parlera du budget de la France. Ouais. Si vous permettez, je termine. Non, mais on peut terminer une phrase.
Mais Éric Coquerel vient de dire c'est
Joseph,
politique.
Attendez, on termine une phrase.
Georges, il vient de le dire devant
bon,
vous.
Bon, vous permettez. Vous arrêtez dans vos fantasmes politiciens, politiques.
C'est ce qu'il vient de dire.
Arrêtez un petit peu.
Mais écoutez.
Arrêtez, s'il vous plaît.
Écoutez ce que les gens disent.
Bon, vous permettez que je termine une phrase.
Allez-y.
Je dis simplement que demain, il y aura la commission des finances qui se réunira avec le budget que présentera la majorité gouvernementale. Et la majorité gouvernementale va voter. Hein, là, elle ne vote pas parce que c'est l'élection, c'est l'usage. Mais LFI n'aura pas la majorité à la commission des finances. Et ça n'est pas le président lui-même qui mettra en minorité sa commission. Donc il n'y a pas de péril dans la demeure. Voilà. Éric Coquerel n'est pas ministre de l'économie et des finances.
Chacun peut exprimer.
Voilà.
Il
vient de dire exactement l'inverse.
Chacun a entendu.
C'est un poste politique, pardonnez-moi.
Joseph.
Et bonjour le secret fiscal.
Joseph.
Bonjour le secret fiscal.
Alors ça y est, dans le secret fiscal. Il va aller tous les 4 matins regarder votre dossier fiscal.
Mais c'est pas rien pour les entreprises. C'est pas rien pour les patrons.
Cette défense du capitalisme est émouvante.
Chacun.
Je suis ému de voir que.
Chacun a pu s'exprimer. Chacun des téléspectateurs se sont fait leur avis entre ce qu'a dit Georges, ce qu'a dit les uns les autres. Merci Madame Sophie de Menton, c'est le principe de notre émission. Voilà.
Merci.
Nous donnons la parole et si je faisais un commentaire, ne vous étonnez pas d'être là où vous êtes, cher Georges Fenech. Ne vous étonnez pas.
Sur ce plateau.
Moi, j'aime beaucoup quand vous y êtes.
J'aime beaucoup quand vous y êtes.
Bon, pour terminer, alors ça c'est en marge. De M. Coquerel. Ça n'a rien à voir avec l'aspect politique, économique des choses, mais c'est la personnalité. Et la flèche est venue, si j'ose dire, de Rokhaya Diallo, hier, sur le plateau, dans les studios de RTL. Écoutez ce qu'a dit Mme Rokhaya Diallo d'Éric Coquerel.
y a quelque chose qui me revient, sur lequel je voudrais revenir, et qui est une question assez sensible, et qui a plus à voir avec la personnalité d'Éric Coquerel. Mais moi, j'ai plusieurs sources au sein de LFI, et j'ai entendu plusieurs fois des femmes parler du comportement qu'il aurait avec les femmes. Ce sont des choses qui reviennent de manière récurrente depuis plusieurs années. Il y avait eu un article dans Cosette, alors qu'il parlait d'un député LFI sans le nommer. Ce sont des accusations. J'ai conscience du fait que ce soit des accusations, mais je pense que pour un parti comme LFI, qui quand même a dans ses statuts, dans ses positions politiques, l'idée que les femmes, en fait, doivent être protégées. Je suis très étonnée, en fait, moi, de ce choix, sachant ce que j'entends et ce que j'ai beaucoup entendu en amont de sa nomination, sachant qu'il était en balance avec Valérie Rabault. Donc je suis un petit peu surprise, je l'avoue, parce que ça fait longtemps que j'entends des choses, que j'ai des choses, des personnes... Oui,
enfin, à ma connaissance, il n'y a rien qui est sorti sur le plan, en tout cas, judiciaire.
Mais c'était comme c'était le cas pour Tahabouaf, il n'y avait rien de judiciaire au moment où il a été auditionné. C'était juste des témoignages qui étaient parvenus au cadre de LFI. Il n'y avait pas de plainte au moment où... Et je crois qu'il n'y a toujours pas de plainte contre Tahabouaf. Pour autant, il a été écarté de sa candidature. Donc, moi, je m'interroge.
Et Sandrine Rousseau a, elle, pris la parole il y a quelques minutes. Nous l'écoutons.
Alors moi, je n'ai pas eu de témoignage direct de ces femmes. Et ça fait partie des lignes sur lesquelles il faut être extrême.
Vous n'avez pas non plus eu de témoignage direct de celles qui ont accusé Damien Abad.
Et elles ont déposé vis-à-vis de la justice. C'est quand même pas pareil. Bon. Elles ont déposé plainte. Elles ont déposé vis-à-vis de journalistes qui ont fait des enquêtes avec des contradictoires. Ils ont corroboré les faits, etc. Là, sur Éric Coquerel, moi, j'ai cherché parce que il y avait ces bruits. Voilà. Donc j'ai cherché. J'ai passé des coups de fil. J'ai mis plusieurs féministes sur le coup et plusieurs personnes victimes de violences sexuelles dont on sait qu'on peut avoir confiance quand on nous parle pour avoir une oreille et attentive et respectueuse des paroles qui sont posées. Il y a plusieurs personnes qui ont passé des coups de fil. Moi-même, j'ai passé des coups de fil. Je n'ai eu aucun témoignage direct. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais ça veut dire que tant qu'on n'a pas de témoignage direct avec des faits corroborés, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?
Dites-vous à ces femmes si elles existent aujourd'hui,
pousser
la porte d'un commissariat, aller voir la...
Bien sûr.
Ouais.
Bien sûr. Aller voir la cellule.
Une de ces femmes témoigne auprès de la cellule. Éric Coquerel devra se retirer.
Eh bien, il y aura une enquête qui sera réalisée.
Et en attendant, il devra se retirer.
Eh bien, on verra le témoignage, parce que c'est...
Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur la nomination de M. Coquerel. Autre sujet.
On juste quand le journaliste dit à Sandrine Rousseau il faut qu'elle aille au commissariat, elle répond oui, il faut qu'elle aille à la cellule de signalement de l'EFI, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette nomination. Autre sujet qui nous a intéressé, c'est cette jeune femme que vous avez peut-être entendue hier chez Jean-Marc Morandini, victime d'un viol en 2016. Elle s'appelle Karine. Elle a vu son agresseur, pourtant reconnu coupable, c'est ça qui nous intéresse, sortir libre du tribunal d'Evry. Donc d'un côté, c'était aux assises, hein. D'un côté il est reconnu coupable de viol, et il sort libre du tribunal. Donc indignée par ce verdict, la jeune femme a lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux, elle était chez Jean-Marc Morandini hier, et depuis le parquet a fait appel. Écoutons d'abord le rappel des faits, cette jeune femme qui s'appelle Karine.
Je rentrais du travail, en fait, un soir je rentrais du travail au restaurant que je fermais. Il devait être, je sais pas, à minuit. J'ai été abordée par un chauffeur de taxi qui me disait que c'était dangereux de se promener tout seul le soir comme ça et qui proposait une course gratuite pour me ramener chez moi. Et je vous l'ai fait assez rapidement parce que c'est un peu difficile. Pardon. J'ai même plus de larmes, je suis désolée. Et en fait, une fois dans son taxi en bas de chez moi, un peu plus loin, il m'a forcé à faire une fellation, il a passé ses doigts partout, enfin bref, et pour lui, tout ça, c'était normal. Après, il m'a demandé mon numéro de téléphone, il m'a laissé, et aujourd'hui, il dit qu'il ne comprend pas, parce que pour lui, tout ça, c'était consenti.
Et on va écouter dans une seconde Karine de nouveau qui exprime sa colère face à la justice, mais la minute info à présent.
Bonne nouvelle pour les personnes sans emploi. Les allocations d'assurance chômage vont être revalorisées de 2,9%. Cette hausse concerne 2 100 000 allocataires. Elle a été décidée par l'UNEDIC en raison de l'inflation. L'éducation nationale va porter plainte après la fuite de sujets de brevets sur les réseaux sociaux. Les sujets de secours vont être distribués ce vendredi pour les épreuves d'histoire, géographie et de sciences. En 2019, des sujets de mathématiques de la filière générale avaient déjà été divulgués sur WhatsApp et par SMS. Et puis, c'est une union pour le moins étonnante. Hier au Mexique, le maire de San Pedro Huamelula s'est marié avec sa fiancée, un alligator. L'animal, vêtu de blanc, a même eu le droit au traditionnel baiser. Ce rituel séculaire est pratiqué pour attirer la générosité de la nature.
Écoutez, on va se marier avec des crocodiles, pourquoi pas. Le tribunal d'Evry a reconnu coupable de 3 chefs d'accusation la personne dont nous parlons, à savoir 2 viols et une agression sexuelle, en récidive sur 3 victimes différentes. Il a été condamné à 6 ans de réclusion, dont 2 fermes, avec un aménagement de peine, et il n'ira donc pas en prison, d'où les larmes de Karine. Et cette personne avait déjà été condamnée en janvier 2016. Il a abordé ses victimes en tant que chauffeur de taxi, et Karine rentrait du travail lorsqu'on lui a proposé une course gratuite, comme elle le racontait à l'instant. La colère de Karine à présent.
On dénonçait en fait un prédateur sexuel qui a du coup écopé d'une peine de 6 ans de prison, dont 2 fermes avec un aménagement de peine. Donc je l'ai vu partir libre du tribunal avec sa petite famille. En fait, la présidente a dit que nous, les parties civiles, nous n'avions pas dû comprendre en fait cette peine. Mais oui, effectivement, en fait, je comprends pas. Je comprends pas que ce soit possible. C'est pas possible. On peut pas dire parce qu'il n'a pas commis de viol depuis qu'il a été placé sous contrôle judiciaire que c'est bon en fait. Le mec est bien. Hein, que tout va bien et qu'il a eu, parce qu'il a un enfant, une situation stable, tout va bien, parce que nous, nos situations, elles sont pas stables. Hein. En fait, on nous a dit que le procureur doutait en fait de sa capacité à faire appel ou pas par rapport au dossier. Il pense que peut-être en cours d'appel, on nous donnera encore moins et peut-être que en fait, finalement, on sera plus des victimes en appel. Mais moi, je suis désolée, j'ai pas du tout cette vision-là des choses. Je pense que s'il a été reconnu coupable une fois, il le sera reconnu une seconde fois et que sa peine ne peut qu'être plus lourde. C'est pas parce qu'il a une gamine qu'il doit pas aller en prison. Ça fait 25 ans qu'on m'élève en me disant que la justice de ce pays, elle est juste, elle sera juste. Donc oui, j'ai confiance en la justice, mais aujourd'hui, pardon, hier, elle nous a trahis. Et j'espère qu'elle va réparer ça, parce que je sais qu'elle est capable de ça aussi.
Témoignage surprenant et bouleversant de Karine.
C'est rare d'entendre, et c'est bien que vous ayez donné la parole aussi longuement à une victime, parce que chacun peut se rendre compte de cette souffrance accentué par le fait du sentiment d'un déni de justice, alors que ces faits sont d'une extrême gravité et que cette jeune femme va porter ça toute sa vie. Et que le fait qu'il n'ait pas fait un seul jour de prison, qu'il soit récidiviste pour une affaire de viol manifestement prémédité, personne ne peut le comprendre. Et vous me dites, je ne savais pas que le parquet a fait appel. Heureusement que le parquet a fait appel. Pour que cette décision soit revue.
Ce sont des...
C'est une cour d'assises. C'est le fait qu'on dise on aménage une peine 2 ans sous forme de bracelet électronique, il est évident que ça n'est pas cher payé pour le crime dont il s'agit.
Alors les réquisitions, c'était 12 ans. Le parquet, les réquisitions.
Quels sont les arguments des juges?
C'est la réinsertion. Depuis, il a eu un enfant.
C'est-à-dire que depuis 2016, il n'a pas. Depuis 2016, il s'est bien conduit. Depuis 2016, il s'est bien conduit et il a une situation stable. Mais ce qui est intéressant, Gilles-William Golnadel disait hier que désormais, dans les tribunaux, les agressions, sexuelles ou non d'ailleurs, sont moins condamnées, par exemple, que les délits fiscaux. Mmh. Et il disait, c'était sa parole, sans doute pour des raisons idéologiques. C'est-à-dire que la délinquance en col blanc... Aujourd'hui, disait Gilles-William Golnadel, est davantage puni que les agressions, les voies de fait.
Je rappelle simplement, Pascal, qu'il n'y a pas si longtemps que ça, sur un fameux mur des cons, des magistrats d'un syndicat que je nommerai pas, avaient épinglé 2 pères de famille dont les filles avaient été victimes de tueurs en série, dont un Guy Georges d'ailleurs, et ils étaient épinglés comme un con dans la mesure où ils avaient créé une association pour lutter contre les tueurs en série. Voyez-vous ? Donc c'est pour vous dire que combien William Golnadel a raison, que derrière tout ça, il y a une forme d'idéologie et de permissivité en quelque sorte. Voilà. Et je dirais d'angélisme par rapport à cette grande criminalité.
Autre sujet justice qui peut nous intéresser, c'est le procès de Jean-Marc Reiser. Dans le procès du meurtre de Sophie Le Tan, Jean-Marc Reiser devrait s'exprimer pour la première fois devant la Cour. Je ne sais pas si Noémie Schulz est déjà avec nous. C'est le 4e jour du procès. Et elle est avec nous, Noémie Schulz ou...
Ah, ça c'est dommage qu'elle ne soit pas avec nous, parce que nous l'aurions écouté sur ce sujet. Les deux experts qui se sont exprimés ont retenu des traits de perversité dans la personnalité de Monsieur Reiser. Alors en attendant, peut-être, je voulais vous montrer ce sujet de cette violoniste qui a été agressée ces derniers jours dans Paris, qui s'appelle Julie Berthelet, qui est une jeune prodige, qui avait d'ailleurs gagné le concours des jeunes prodiges en interprétant Vivaldi d'une manière tout à fait exceptionnelle. Et cette jeune femme veut quitter Paris. C'est vrai que c'est un chapitre sécurité que nous abordons régulièrement ici, mais que cette France peut nous inquiéter parce que personne n'est en sécurité aujourd'hui quand il va dans un endroit public. Julie Berthelet, voyez le sujet.
Il est 7h jeudi 23 juin dans le 9e arrondissement de Paris. Lorsque la violoniste Julie Berthelet est violemment agressée par un homme sur le quai d'une station de métro.
Il m'a arraché les colliers et les bracelets que j'avais, parce que je porte toujours des bijoux, parce que je trouve ça joli. Et du coup, je suis tombée, il m'a griffée en me les arrachant. J'ai voulu remonter quelques marches pour rattraper mes affaires. Il m'a repoussée, j'ai remonté encore, et là, j'ai aperçu qu'il avait une lame. Et il m'a jeté dans les escaliers, donc j'ai eu le souffle coupé et je me suis retrouvée par terre.
Une scène qui s'est déroulée dans l'indifférence générale. Seule une agent de la RATP est venue lui porter secours. Une agression traumatisante pour la musicienne.
Depuis l'agression, j'ai peur dès que je suis dehors, dès que je suis dans la rue. Mais j'espère que ça va passer avec le temps.
Quelques minutes avant l'agression, un autre homme avait tenté de lui dérober son téléphone. Pour Julie Berthelet, c'en est trop. Face à l'insécurité, la violoniste souhaite quitter Paris et retourner vivre en Suisse.
Et écoutez également, est-ce qu'on peut la passivité de ceux qui ont assisté à cette scène rapportée par Julie Berthelet.
Les gens continuaient de passer pour aller prendre leur métro sans s'arrêter. Et alors que j'étais à terre et qu'on venait de m'agresser, la seule personne qui est venue me demander si ça allait, c'est la jeune femme de la RATP qui avait son bureau juste en face. Et toutes les autres personnes autour n'ont pas réagi, même ceux qui physiquement avaient l'air de pouvoir faire quelque chose. Personne après s'est arrêté pour me demander si ça allait.
La vraie question n'a pas... J'habite près de la place de la République. Donc, j'ai vu à quel point cet endroit était devenu, bien sûr, un urinoir à ciel ouvert, bien sûr, enfin, l'horreur absolue, etc. Mais surtout, quelque chose de dangereux. Quand ma fille vient me voir, évidemment, elle ne peut pas repartir et prendre le métro. Elle ne peut plus traverser la place. C'est plus possible. Et ce que je dis là pour cet endroit, l'est vrai pour d'autres endroits à Paris. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas des endroits qui sont forcément des endroits du nord de Paris. Ça peut être également dans le 7e, dans le 6e, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être une femme à Paris, vous avez une prise de risque. Vous êtes une jeune femme et vous voulez commander un taxi ou n'importe quoi et que vous avez à la main votre portable, enfin, le risque est maximum. La personne arrive, l'arrache, la fait tomber par terre, etc. On n'en parle pas assez, mais j'imagine que ce qui se passe à Paris, ça se passe dans d'autres villes de France. Vous parlez souvent de Nantes, mais ça peut être aussi à Marseille, Lyon, Bordeaux, que sais-je. Donc, il faut bien considérer qu'aujourd'hui, nous sommes en France en 2022, être une femme aujourd'hui, pouvoir se promener tard le soir et même dans la journée est un problème. Donc, je me dis dans quelle société on est. Donc, type de société on est pour que on ait perdu ce sens commun et ce langage commun de respecter. C'est juste incroyable.
Peut-être la pause. Justice un peu plus dissuasif.
La pause. À tout de suite. Il est 2h01, la minute info.
Retour à la normale pour les tickets restaurants. À partir d'aujourd'hui, le plafond quotidien va redescendre à 19 euros. Leur utilisation ne sera plus possible les week-ends et les jours fériés. Ces mesures avaient été prises pour relancer la consommation dans les restaurants lors du premier confinement. Grève dans les aéroports français ce vendredi et tout le week-end. Plusieurs syndicats et des salariés vont réclamer des hausses de salaire au vu de l'inflation. Ces mouvements sociaux pourraient provoquer des retards et des annulations à une semaine des vacances scolaires. Et puis le changement de nom de famille facilité à partir d'aujourd'hui. Tout majeur peut désormais demander une fois dans sa vie à prendre ou à ajouter le nom de son autre parent. La démarche s'effectue en mairie et sans justification. Avant, il fallait motiver son choix, par exemple à un patronyme à consonance péjorative ou à des parents violents.
Noémie Schulz est avec nous. Dans le procès du meurtre de Sophie Lothan, Jean-Marc Reiser devrait s'exprimer pour la première fois devant la cour. Bonjour Noémie.
Bonjour Pascal.
Est-ce que l'audience a commencé ?
Oui, absolument. L'audience a repris ce matin à 9h avec les témoignages, les dépositions à la barre dans la matinée des experts, notamment les légistes hein, qui parlent de la découverte des restes du corps de Sophie Lothan. En ce moment, c'est un médecin qui explique les traces qui ont été retrouvées, notamment sur un fémur permettant de voir qu'il avait été coupé, scié. On sait qu'on avait retrouvé une scie avec le sang de Sophie Lothan dans la cave de Jean-Marc Reiser. Et c'est cet après-midi à 14h que l'accusé va être interrogé sur les faits. Il s'est un peu exprimé hein, depuis le début de l'audience. Ponctuellement, le président l'a fait réagir après notamment certains témoignages, mais il n'a pas encore donné sa version des faits. On ne sait pas s'il reste sur la même ligne, mais a priori, c'est ce qu'il a laissé entendre le premier jour en disant qu'il reconnaissait les faits, mais qu'il n'y avait pas d'intention homicide, pas de préméditation. Pendant l'instruction, il avait expliqué que c'était par hasard qu'il était tombé sur Sophie Lothan en bas de chez lui, qu'elle s'était blessée à la main, qu'il l'avait laissée monter chez lui pour la soigner, et puis qu'après, pris d'un coup de sang parce qu'il avait tenté de la séduire et qu'elle l'avait conduit, eh bien, il l'avait frappée, qu'elle était tombée sur les toilettes et qu'elle était morte comme ça. Cette version, l'accusation n'y croit pas, les proches de Sophie Lothan non plus, et c'est donc là-dessus qu'il va devoir s'expliquer cet après-midi.
Eh bien, merci beaucoup, Noémie Schulz, et on suivra.
Cette affaire-là me passionne. Hein. Me passionne parce que aussi il y a un fantôme derrière, c'est celui d'une personne qui est Françoise Oman. Françoise Oman, c'est une victime. On pense que c'est une victime. Et à l'époque, c'est-à-dire à la fin des années 80, il n'y avait pas les éléments pour permettre. Il n'y avait pas cet ADN, il n'y avait pas etc. etc. Et à l'époque aussi, il n'était plus possible de se pourvoir en appel. Une fois la décision prise,
il n'y avait pas d'appel.
Mais maintenant, ça peut repartir parce que séquestration volontaire, et donc les avocats de cette personne ont cette personne qui a disparu exactement dans les mêmes conditions.
Et vous pensez que M. Reiser serait
responsable. Il a été acquitté parce que voilà, faute de. Et il y a moi ça me passe, pardon, hein, c'est absolument passionnant.
Mais l'autorité de la chose jugée, on pourrait revenir.
Vous savez qu'on peut pas faire appel.
Ouais. Hein. Ouais. Noémie Schulz veut préciser quelque chose sur ce dossier. Noémie.
Ah, c'est dommage, on n'entend pas.
On n'entend pas Noémie. Nous n'entendons pas Noémie. Nous ne vous entendons pas, Noémie. On a un problème technique avec Noémie Schulz, comme vous l'aurez compris.
Non, c'est
Est-ce que vous m'entendez ?
Ah, là, on vous entend. Donc, précisez, Noémie, ce que vous vouliez dire. Non. Manifestement, nous avons toujours le même problème. Donc,
La disparition de cette femme, c'est la dernière fois qu'on l'a vue, elle entrait au domicile de M. Reiser. Vraiment, les conditions sont extrêmement semblables. Donc, ça en dit long également, parce que s'il est peut-être possible qu'il soit vraiment multirécidiviste. Voilà.
On parlera du Covid dans quelques instants. Je voulais simplement, effectivement, c'est une nouvelle qui est très attristante et bien au-delà même, puisqu'un petit garçon de 5 ans, vous le savez, est décédé après avoir été renversé mercredi par une trottinette sur la promenade des Anglais. La jeune victime est un réfugié ukrainien. Il traversait avec sa mère la promenade des Anglais à Nice, un passage piéton, lorsque l'accident a eu lieu. La trottinette roulait sans doute à une vitesse excessive. Je voudrais qu'on voit le sujet, et peut-être avez-vous un avis sur ces trottinettes qui aujourd'hui roulent dans Paris et dans toutes les villes de France.
le drame s'est déroulé en une fraction de seconde. Il était 21h mercredi soir lorsqu'un enfant qui se promenait avec sa mère a été percuté par une trottinette roulant à vive allure. Selon le procureur, il a été fauché au niveau d'un passage piéton sur une piste cyclable sur la promenade des Anglais. Le petit Ukrainien, âgé de 5 ans, a succombé à ses blessures.
Ce petit garçon a disparu dans ces conditions aussi tragiques. C'est un message qui doit nous donner envie d'adresser à la communauté ukrainienne tout entière un message d'émotion et de solidarité à leur encontre.
Ce n'est pas la première fois qu'une trottinette se retrouve impliquée dans un accident mortel. En 2021, la sécurité routière a recensé 22 personnes tuées à la suite d'un accident avec ses deux roues électriques.
La trottinette électrique est un engin motorisé. Et à ce titre-là, on doit respecter une réglementation et bien faire passer ce message-là. Je dis bien dans la pédagogie et dans la sanction.
Le conducteur de la trottinette, un quadragénaire, n'aurait pas consommé d'alcool selon les premiers prélèvements effectués. Il a été placé en garde à vue pour homicide involontaire. Le père du petit garçon, bloqué en Ukraine pour les combats, a obtenu l'autorisation de rejoindre sa famille en France.
Quelle horreur, fuir l'enfer ukrainien pour être... C'est vraiment c'est terrible. Moi, je pense qu'il y a déjà une première chose qui serait à faire, à vie personnelle. Ce serait la plaque d'immatriculation pour les vélos et pour les trottinettes. Déjà, ça réduirait assez considérablement l'aptitude des chauffards de se croire les rois de la route. Déjà, plaque d'immatriculation. Je dis ça parce que c'est une proposition qui a failli, à l'Assemblée nationale, qui a failli passer.
Moi, je ne pense pas que ce soit une question de chauffard. La trottinette électrique est un outil extrêmement dangereux. Je connais moi-même deux personnes, personnellement, qui sont handicapées à vie à la suite d'accidents de trottinette. Je ne connais pas personnellement de gens qui sont handicapés à la suite d'accidents de voiture. Je sais qu'il y a des dangers de la voiture, mais je veux dire, la trottinette est un moyen extrêmement dangereux de déplacement pour une raison très simple. En dehors de l'alcool, en dehors du non-respect, en dehors de l'imprudence, c'est que vous ne pouvez pas à la fois regarder devant vous et regarder le sol. Et il suffit qu'il y ait au sol une faille, un trou, un cul de poule, quelque chose... Vous regardez la route devant vous, et vous tombez, vous pouvez vous massacrer. Et je trouve qu'il y a une très grande responsabilité à tous ces maires qui laissent comme ça des trottinettes en libre service.
Et combien de fois on voit des personnes à deux sur une trottinette, sans casque en plus, et même seules ou avec des enfants.
On a récupéré Noémie Schulz qui voulait préciser quelque chose sur Françoise Oman, qui est donc la mère. Françoise Oman, pardon, qui est une victime. Et il se trouve, Noémie Schulz, que la mère de Françoise Oman est présente à l'audience, Noémie.
Absolument, Françoise Oman, vous l'avez dit en plateau, c'est une jeune femme qui a disparu. Elle avait une vingtaine d'années en 1987 et la dernière personne chez qui elle s'était rendue, c'est Jean-Marc Reiser. Elle vendait à domicile des produits et elle a sonné chez lui. On ne l'a plus jamais revue depuis. Il a été jugé, Jean-Marc Reiser, pour ce meurtre en 2001, mais il a été acquitté faute de preuves. On n'a jamais retrouvé notamment le corps de Françoise Oman. Acquitté définitivement, il ne pourra plus être jugé pour ce meurtre. Mais c'est vrai que... Des années plus tard, quand la mère de Françoise Oman a entendu que Jean-Marc Reiser avait été arrêté, qu'il était suspecté dans la disparition de Sophie Le Tan, elle s'est dit mais c'est pas possible, il a recommencé. Et cette mère, elle est ici, elle assiste tous les jours à ce procès qui quelque part sera le procès par procuration de sa fille. Jean-Marc Reiser ne pourra plus être jugé pour le meurtre de Françoise Oman. Et pour la famille de Sophie Le Tan aussi, eh bien, il y a la volonté que ce procès puisse servir pour les deux familles. C'est ce que nous avait confié le cousin de Sophie Le Tan à l'ouverture des audiences.
Merci Noémie Schulz.
Je pense que ça pose un problème juridique parce que on ne peut pas revenir sur un procès d'acquittement. Il ne peut pas y avoir de révision criminelle si vous découvrez des faits nouveaux. Contrairement, par exemple, en Grande-Bretagne, on peut revenir sur un acquittement. Je l'avais proposé, moi, à une époque, ça avait été rejeté. Je pense qu'il faudra revoir ce dispositif parce que si aujourd'hui on apporte les preuves qu'il est bien l'auteur de ce crime, on ne peut pas le juger aujourd'hui en France avec notre système.
Alors, est-ce que, vous avez la connaissance, pas moi, est-ce que le nouveau motif de présentation de séquestration arbitraire peut permettre de le juger ou pas?
Non.
Le Covid, un mot sur le Covid. D'abord, est-ce que vous avez tous eu le... Vous n'avez pas eu le Covid, Laurent?
Oui, parce que si... C'est bien, vous savez, c'est la phrase de...
Et que croyez-vous qu'il arrive?
Voilà,
ce fut le Covid qui...
Voilà, qui est-ce qui avait écrit ça?
Voltaire.
C'est Voltaire, voilà. Voltaire. Et il parlait de qui? Comment s'appelait?
Je sais plus
pas Scarron, Ferron. Mais un nom comme...
Ferron.
Ferron, et voilà.
Ferron, puisque ça rime avec Vallon.
Voilà. Vous avez eu le Covid?
Possiblement au début.
Possiblement?
Non.
Non, non. Et oui. On est avec Gonzague de Bonaventure, qui est porteur du Covid long, et régulièrement on essaye d'avoir des témoignages, comment ces gens, les uns et les autres, peuvent vivre. Je vous rappelle que le tableau hier, nouveau cas confirmé, 133 000 patients hospitalisés, 15 931 personnes en soins critiques, il y a eu 42 personnes qui sont décédées malheureusement. Bonjour monsieur de Bonaventure.
Bonjour.
Vous êtes libraire à Nantes ?
Exactement, c'est ça. Oui.
Vous avez attrapé le Covid en mars 2020 ?
Mars 2020, à l'époque je travaillais au Parlement européen et je l'ai contracté, et depuis j'arrive pas à m'en débarrasser, ça fait depuis 2 ans, et il y a un paquet de monde comme ça qui se retrouve dans la même situation que moi.
Et ça se traduit comment ? Ça se traduit comment 2 ans plus tard ?
Alors, moi, ça se traduit par une installation de symptômes, moi je dirais notamment neurologiques. Donc, ce sont des pertes cognitives, ce sont des confusions, la perte de mémoire à court terme, une atteinte au niveau de mon langage. Je commence à avoir, on va dire, même une atteinte, une diminution au niveau parfois de ma capacité à m'orienter, même si c'est très léger. Donc voilà des choses qui sont plutôt inquiétantes en fait, hein, et qui sont assez légion. Donc je vous remercie de relayer notre message, parce que c'est un enfer. Et voilà.
Que vous disent les médecins ?
Alors les médecins, ça a été un très long parcours du combattant, parce que déjà il faut rappeler qu'en mars 2020, donc les tests étaient impossibles à effectuer. Et puis ensuite, donc il y a eu la fameuse affaire de la chloroquine et de l'ivermectine. On a interdit aux médecins de prescrire de la chloroquine parce que c'était soi-disant un médicament qui était extrêmement mauvais. Hein. C'était vendu depuis 50 ans à des milliards d'individus, mais c'est pas grave. Les médecins les médecins sont terrorisés. La plupart des médecins n'osent pas parler. La plupart des médecins ne savent pas de quoi il s'agit. La plupart de ceux qui cherchent à aider les gens, qui cherchent à leur prescrire des antibiotiques, ça peut être des choses qu'ils ont visiblement interdites ou pas recommandées par le Conseil de l'Ordre, et bien ces médecins-là sont persécutés. Voilà. Et j'ai actuellement 2 médecins qui devaient m'aider, mais on leur a interdit de prescrire, très bêtement.
Je vais recevoir Denis Colin. Je crois que c'est mercredi. Il va venir nous voir. Il est médecin et il est acupuncteur. Acupuncteur, oui. Et il nous a contactés. Il m'assure qu'il guérit les Covid longs grâce à l'acupuncture, et que tous les cas qu'il a eus dans son cabinet, il est médecin, hein, attention, il est médecin, que tous les cas, il en est venu à bout avec les aiguilles. C'est pour ça qu'on le recevra d'ailleurs mercredi.
Très bien son adresse.
je vais vous la faire passer. Je vais vous la faire passer, je vous promets. Je vais vous donner son numéro hors antenne, bien évidemment. Parce que, il a trouvé, c'est pas le mot d'ailleurs, mais il sait soigner. Précisément, en tout cas, résoudre ce problème de Covid long. Alors, lorsque vous échangez avec nous comme ça, monsieur de Bonaventure, on a le sentiment que tout va bien.
Ah bah tout va bien parce que j'ai retrouvé un emploi, parce que j'ai la forme, j'ai la foi aussi qui m'aide pas mal. On est dans une association qui s'appelle l'UPGCS où on aide les malades et on se soutient. On cherche à faire reconnaître. On cherche à faire reconnaître nos problèmes, ce qui n'est pas évident, je vous l'avoue, mais voilà, c'est aussi comme ça au jour le jour qu'on avance. Et effectivement, et vous le disiez à juste titre, grâce à des gens qui, qui sont en dehors du système, la médecine alternative, les acupuncteurs, les naturopathes, voilà, et des médecins évidemment qui proposent d'autres types de traitements. Mais moi, je suis absolument pas pessimiste, hein, c'est pas le souci, mais c'est effectivement qu'on a du mal à se faire entendre. Au niveau des autorités de santé.
Ben merci beaucoup. Vous êtes libraire dans cette belle ville de Nantes, ou ce qui était une exactement. Belle ville, plus exactement. Absolument. Maintenant, c'est un peu plus compliqué parfois. Vous êtes où dans Nantes, Gonzague ?
Alors, je suis derrière la place Gralin.
Voilà. Derrière la place Gralin. Donc, la place Gralin qui est une des places les plus célèbres de Nantes. Mais alors, dans quelle rue ? Parce qu'on va donner la rue. C'est rue Voltaire ? Rue Gresset ?
Rue Voltaire.
Voilà, d'accord. Et, mais alors, comment s'appelle cette librairie ? Je crois que...
Alors, c'est la librairie d'Aubray.
Mais c'est la librairie d'Aubray, bien évidemment. Ben oui, bien sûr. Évidemment. La librairie d'Aubray, derrière le musée d'Aubray. Qui était assez conservatrice, disons-le, à l'époque. Hein, et qui a dû le rester sans doute. La librairie d'Aubray. Merci. Et vous dites bonjour aux Nantais. Nathan, avec le plus jeune. Ben, c'est toujours vous qui y part. Parce que Jacques Vendroux va arriver.
Ah, d'accord.
Mais dans quelques instants, Jacques Vendroux va inaugurer le stade Jacques Chirac. C'est la première fois qu'il y aura un stade Jacques Chirac en France.
Où ça?
Ben, il va nous dire. Il va nous dire le stade Jacques Chirac. Ça sera un bon teasing.
Encore un.
Je le sais, mais je ne le dirai pas.
C'est curieux de donner le nom de Chirac à un stade alors qu'il trahit ses électeurs en permanence. refuser de s'allier, etc. Je ne comprends pas, moi. Je comprends pas.
Non? N'insultez pas la mémoire du président Chirac, s'il vous plaît. Michael Dos Santos, merci Nathan. Alors, merci. Votre bouquin, on en parlera avant que vous partiez. On en parlera la semaine prochaine, hein, évidemment.
Il est bien écrit,
Comment ?
Il est bien écrit.
Alors, il est sombre. Hein.
Je n'ai pas tout lu encore.
Vous n'avez pas tout lu ?
Je peux pas.
Oh, vous lisez vite, vous.
Oui.
Michael Dos Santos.
Fin du procès du violeur de la Sambre. Après 30 ans de viol et d'agression sexuelle près de la frontière franco-belge, la cour d'assises du Nord a aujourd'hui son verdict concernant Dino Scala. Le parquet a requis la peine maximale, 20 ans de réclusion criminelle, assorti des 2/3 de sûreté à l'encontre de l'homme de 61 ans. Dino Scala reconnaît 40 des 56 faits qui lui sont reprochés. Répression meurtrière au Soudan. Hier à Khartoum, 9 personnes ont été tuées par balles lors de manifestations anti-putsch. Depuis octobre dernier, des dizaines de milliers d'habitants réclament que le pouvoir soit rendu aux civils. Au total, 112 manifestants ont déjà perdu la vie. Et puis la Cour pénale internationale célèbre ses 20 ans après 2 décennies de critiques et de controverses. Depuis sa création, seules 5 condamnations ont été prononcées pour des accusations de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Malgré ce maigre bilan, l'institution reprend un nouvel élan avec la guerre en Ukraine.
On verra dans une seconde les échanges entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Vous avez peut-être vu hier le documentaire de France 2 de notre ancien confrère qui était en tout cas dans le groupe C8, Guy Lagache. Vous avez regardé hier soir ? Non, c'était tout à fait. Alors regardez, moi, je ne veux pas faire de publicité pour le groupe France 2, mais c'est tout à fait remarquable de voir ce documentaire et les caméras étaient embarquées. Vraiment toujours et tout le temps, et tu vois Emmanuel Macron en train d'échanger avec notamment Scholz, également avec Vladimir Poutine. Il a eu la chance, la possibilité d'être présent tout le temps depuis de nombreuses semaines, et ça donne un documentaire qui était tout à fait saisissant. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On accueille notre ami.
Comment ça va ?
Et qu'est-ce qui se passe ?
Qu'est-ce qu'il y a ?
Les cheveux ?
Ben j'ai fait une petite coupe d'été, non ?
Il y a plus de cheveux.
Ben non, ça va, attendez, c'est bon, là, regardez.
Et tout coupé.
Mais vous devriez y aller, hein. Pourquoi ? Parce que votre moumoute est toujours mal réglée. Ça fait 10 ans que je vous connais. Je vous ai toujours dit que vous aviez un problème de moumoute et que votre moumoute, enfin, ça va pas. Voilà, je le dis carrément, c'est autant que les choses soient claires. Michel Denisot m'a encore appelé, il m'a dit il faut que tu lui parles de sa moumoute. Voilà, c'est tout. Bon, à part ça, tout va bien.
Cher Jacques, j'ai pas mis ma veste rouge, ça, tout va bien.
Non, tout va bien, tout va bien. Non, là, vous êtes nickel.
La veste framboise, vous voulez pas ?
Non, je veux plus. Franchement, je veux plus.
Il y a une association qui est.
Dario Moreno m'a téléphoné, il m'a dit non, j'ai gentil, l'équipe qui ne mette pas ma veste.
J'aime bien quand vous parlez. Moi, j'adore. Qui connaît Dario Moreno ?
Dario Moreno est un grand chanteur, formidable, qui était spectaculaire.
Mais je suis d'accord, mais qui le connaît ?
Ces gens-là,
je vous fais venir sur ce plateau.
Mais ces gens-là, Pascal, font partie de notre histoire.
Et bien sûr.
Il faut les respecter. Alors évidemment, le jeune rappeur ne connaît pas Dario Moreno. Et ça, je le comprends parfaitement. Mais je ne pense pas que Dario Moreno avait envie de connaître le jeune rappeur aussi.
Je me demande si vous ne devriez pas venir à chaque fin d'émission.
Moi, je vous fais...
Simplement pour parler, mais en fait, pour parler de n'importe quoi. C'est ça qui serait bien, parce que ça nous mettrait de la joie dans notre cœur.
Des années, j'ai encore écouté ce matin, j'ai écouté vos débats ce matin, j'ai écouté...
Il a tort, comme d'habitude.
Comment ? Ah non, pas du tout, moi j'ai beaucoup apprécié, enfin j'ai beaucoup écouté notre ami.
Quel ami ?
Vous.
Ah, merci.
Ah, je vous ai écouté, et je dois vous dire que j'ai pas tout compris.
Ce que j'ai dit ?
Oui. Je dis franchement... Entre la droite, l'extrême droite, la gauche, l'extrême gauche, c'est un peu flou quand même. Mais je le dis à titre personnel, hein, c'est pas clair. Voilà. Vous êtes pour, vous êtes contre.
Là, vous composez avec tout le monde. Mais je dis ça affectueusement parce que c'est des débats qui sont formidables.
Je ne compose pas avec tout le monde. Je dis simplement que je suis.
Non, on
autant...
ne va, va pas refaire le débat. J'ai rien compris. Mais si vous pièce. Le répétez une deuxième fois, j'ai encore moins compris.
On va pas remettre une pièce.
C'est bon. Non, mais c'est un clin d'œil affectif, franchement.
Bon, alors, dans une seconde, donc on parle, parce qu'il est juste. Il nous reste 8 minutes. Mais juste cet échange entre Emmanuel Macron et Poutine hier, qu'on voit dans le documentaire dont je vous parlais. Emmanuel Macron parle comme ça à Poutine, lui dit. Je ne sais pas où ton juriste a appris le droit. Moi, je regarde les textes et j'essaye de les appliquer. Je ne sais pas quel juriste pourra te dire que dans un pays souverain, les textes de loi sont proposés par des séparatistes et par les autorités démocratiquement élues. Et Vladimir Poutine lui répond, ce n'est pas un gouvernement démocratiquement élu. Ils ont accédé au pouvoir par un coup d'État sanguinaire. Il y a eu des gens brûlés vifs. C'était un bain de sang. Pour ne rien te cacher, je voulais aller jouer au hockey sur glace. Là, je te parle depuis la salle de sport. Bon. C'est quand même, voilà, mais c'est assez surprenant de voir ce documentaire. Le contexte de cette phrase, c'est la veille, le président russe a reconnu les deux républiques populaires séparatistes de Luhansk et de Donetsk, situées dans l'est de l'Ukraine, et souhaite que ces propositions soient prises en compte au niveau international. Le documentaire est nommé Un président, l'Europe et la guerre. C'est assez étonnant.
Faute de bilan à la tête de l'Union européenne, au moins il y a un documentaire. Voilà.
Mais alors, c'est vrai qu'il y a une mise en scène, mais comme toujours, un président fait toujours de la com. On le voit beaucoup au téléphone, c'est vrai. Il y a toujours la caméra qui est là, c'est vrai. Mais en même temps, voilà, on ressort de ce documentaire en disant qu'on peut comprendre parfois qu'Emmanuel Macron soit sombre parce que il est très inquiet au fond de la situation internationale. Non, il est très inquiet de la situation internationale et on peut comprendre que quand on a dans la tête une possibilité d'une guerre nucléaire déclenchée, on trouve que les sujets français sont dérisoires. On peut entendre ça. C'est l'état d'esprit qu'on a lorsqu'on sort de ce documentaire, pour tout vous dire. Et effectivement, vous avez Emmanuel Macron qui apparaît sombre, inquiet, XXL, comme il ne l'est pas dans une conférence de presse, par exemple. C'est ça qui m'a beaucoup frappé. Bon, le stade Jacques Chirac, racontez-moi l'affaire. C'est la première fois qu'il y a un stade Jacques Chirac en France ?
C'est hallucinant, c'est la première fois qu'on va inaugurer demain, à Marcillac, la Croisille, c'est à une heure de Brive, un stade Jacques Chirac. Et il y a un an, je me suis aperçu aussi qu'il n'y avait pas eu de stade Charles de Gaulle. Ils ont tout. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas un stade François Mitterrand. On est en train de discuter, tenez-vous bien, avec le fils de Georges Pompidou, Alain Pompidou, pour faire un stade Pompidou à Orvilliers. Je trouve que c'est hallucinant. C'était des présidents de la République qui adoraient le sport.
C'est pas prestigieux, peut-être.
Écoutez, moi, j'essaye. J'ai appelé Claude Chirac. J'ai appelé la famille du général de Gaulle à l'époque. Et je leur ai dit, voilà, moi, j'ai une idée. Mais c'est une super idée. Il n'y a pas de stade Charles de Gaulle. Il n'y a pas de stade Jacques Chirac. Claude m'a donné son accord immédiatement, etc. Et je trouve que le sport, c'est tellement important dans notre société que c'est bien de donner des stades, non de stades, à des anciens présidents de la République. Voilà.
Bon.
Donc c'est demain.
Et en Corrèze.
Et en Corrèze, chez lui.
Chez lui, voilà.
Et il y a Koscielny qui vient, il y a Carambeu qui vient.
Je vais faire une précision, parce que oui. Marcillac, si j'ai bien compris.
Oui. Marcillac, la Croisille.
Oui, c'est la patrie de Edmond Michelet.
Oui, exact. Edmond Michelet qui a été ministre du général de Gaulle.
C'était vrai ou faux?
Oui, c'était mon grand-oncle.
Non.
Non.
Ça me permet d'en parler.
Mais vous avez raison.
Mais ça n'a pas de rapport avec l'historien Michelet.
Bien sûr.
Non, vous dites bien sûr.
Non, mais Edmond Michelet, non, j'ai bien sûr.
Edmond Michelet a été héros de la guerre, qui a été bien ministre sûr. Du général.
Est-ce qu'on a une image de Jacques Chirac annonçant Jacques Chirac et le football? C'est vrai que. Alors, on voulait passer la fameuse image de la Coupe du Monde où il égrène la composition de l'équipe.
Non, mais.
Mais c'est vrai que.
Ils aimaient tous à leur manière. Le
non, mais il y en a qui connaissent voilà. Mieux, par exemple, François Mitterrand.
Bon, Giscard d'Estaing, il ne connaît rien du tout. Je vous le dis tout de suite, rien du tout. Rien du tout. Mitterrand, il adorait le cyclisme et le football. Mitterrand a un record.
Oui.
14 ans président de la République.
Oui.
14 finales de Coupe de France.
Ah, oui. Il n'en a pas manqué une.
Oui.
Jacques Chirac, pratiquement la même chose. Oui. Sarkozy, la même chose. François
Nicolas
Hollande.
Sarkozy connaît très bien le football.
Sarkozy.
Vous savez que Nicolas Sarkozy, quand il était...
Moi, je voulais qu'il devienne président du Paris Saint-Germain, mais il n'a pas voulu.
Bon, ben oui, je comprends un peu quand même, peut-être, quand tu as été président de la République, si effectivement, je veux dire, vous le nommez président...
C'est non, pas non, forcément, non, mais, non, mais après...
C'est pas un
non,
Olympe.
Mais après, non, mais après. Bon,
mais en revanche,
celui qui connaît le mieux, c'est Emmanuel Macron, hein, quand même. Franchement.
Attends, le président Sarkozy, il connaît bien.
Vahid Ali Lodzic
Hollande expliqué,
et Emmanuel Macron, ils connaissent très très bien.
Vahid Ali Lodzic m'a expliqué que Nicolas Sarkozy l'appelait quasiment tous les jours pour échanger avec lui et pourquoi pas lui proposer des solutions pour son équipe quand Vaïd entraînait le Paris Saint-Germain.
Mais vous avez moi je trouve que les présidents, je veux dire, ils se sont, vous savez, une anecdote qui est incroyable, dans les années 60, on gagne aucune médaille aux Jeux Olympiques. 60 ou 64, je ne me souviens plus. Oui. Général de Gaulle est président de la République. Il convoque Maurice Herzog, il le vire. Il convoque à l'époque le directeur des sports qui s'appelait Marceau Crespin, il le vire. Il n'est pas content parce qu'il dit « je n'ai pas entendu la Marseillaise pendant ces Jeux Olympiques ». Donc quelque part, ils aiment le sport. Et il faut leur rendre hommage. Charlotte Gordon-Zala, votre ami Carl Olive, il adore le sport aussi. Oui. Et donc je le nomme parce qu'il sera là demain à Marseillac. Voilà.
Charlotte Gordon-Zala qui travaille avec nous. Je ne peux pas nommer tout le monde. Charlotte Gordon-Zala qui travaille avec nous me précise qu'il y a un petit stade François Mitterrand à Montségur, sur l'Auzin, dans la Drôme, me dit-elle. Vous voyez, il y en a un petit. Stade. Bon, alors demain, qui y a ? Parce que demain, c'est. Il faut comprendre, parce que les gens, ils ne savent pas. Vous avez votre avion, le Variété, où c'est marqué Variété. Parce que souvent, vous faites des photos.
On a fret, un avion. Enfin, non. Et après, on va en avion à Brive. Oui.
Mais c'est marqué, toujours marqué Variété.
Bien sûr.
Donc, c'est un avion.
Bon. Non, ce n'est pas notre avion, on l'a fret.
D'accord. Donc, vous êtes tous en tenue.
En tenue.
Attention, parce que là, ça ne rigole pas. Hein, vous êtes en tenue d'apparat.
Oui.
Et ceux qui ne viennent pas avec
le laser... Vous allez honorer le général de Gaulle, c'est la moindre des choses de mettre une chemise et une cravate.
D'accord.
Vous allez honorer le Jacques Chirac, c'est la moindre des choses de mettre une chemise et une cravate.
Donc demain, tous ces gens-là ont rendez-vous généralement à Paris et vous allez sur place. Alors qui joue demain ? Michel Platini sera avec vous, par exemple ?
Non, demain il y a Gires, Marius Trésor. Oui. Marius Trésor qui revient quelques secondes sur un terrain de football.
Il n'a pas joué, Marius Trésor.
Il va jouer quelques secondes,
Quel âge il a, Marius ? 65 ans ?
Oui, à peu près.
Bon. Mais Carl Alain Giresse,
Carl Olive, Carimbeu, Pires, Piquionne, Koscielny, qui est né là-bas, Claude Puel, Frédéric Piquionne, Gaëtan Huard, Hilton, l'ancien défenseur de Montpellier, que vous connaissez.
Ils ont 40 ans, ceux-là. Mais Giresse, il joue plus.
Bien sûr que Giresse, il joue.
Il joue sur le terrain.
Mais bien sûr.
Mais il joue combien de temps ?
Il joue une mi-temps. Il joue une mi-temps, avec son numéro 12. Et il est très bon.
Et vous savez ce qui se passe vendredi prochain ? Vendredi 8 juillet ?
Oui.
Prochain, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi vendredi
prochain ? Je viens ici avec Didier Barbelivien.
Oui, mais pourquoi ? Entre autres.
Parce que c'est la dernière émission de Pascal Praud avant son tour.
Oui, mais c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est, vendredi ?
Le 8 juillet, il y a 40 ans, France-Allemagne. Le 8 juillet aussi, je dis bien, il y a...
Il y a 40 ans.
Il y a 40 ans. Il y a 40 ans, jour pour jour.
40 ans, France-RFA.
Match extraordinaire.
Tout le monde sait où il était.
On en parlera.
Je me souviens où j'étais. Vous vous souvenez de France-RFA ?
C'est avec Schumacher.
Avec Schumacher. Schumacher.
Il casse la tête à Batiston. Et avec qui va très bien, qui regarde, tiens.
Voilà.
Marius Trésor regarde. Ils regardent tous. Marius Trésor. J'ai envoyé un SMS.
C'est un génie, Marius Trésor.
En disant, je vais parler du match de demain.
Il jouait Marius Trésor, une élégance. Il jouait avec les chaussettes baissées sur les...
Non, mais attendez. Marius, c'est un seigneur.
Exceptionnel.
C'est un gentleman.
Et c'est lui qui marque cette fameuse volée. Et cette phrase merveilleuse de Thierry Roland pendant le commentaire... Ah, Robèche, c'est pas Alain Delon.
Oui.
Mickaël Dos Santos.
L'épouse d'un chasseur mise en examen 27 ans après le meurtre de son mari. L'homme avait été retrouvé décapité dans l'Allier. La femme de 56 ans ne reconnaît pas les faits malgré des indices graves et concordants. Une dispute pour un sèche-cheveux avait éclaté le soir même. Les investigations se poursuivent. Au moins 14 morts et plus d'une trentaine de blessés lors de nouvelles frappes à Odessa. Des missiles ont été tirés par des avions russes sur des immeubles dans cette ville du sud de l'Ukraine. Les opérations de sauvetage se poursuivent malgré les incendies dans les bâtiments. Et puis c'est un nouveau défi pour Nathan Paulin. À Rouen, le funambule va traverser ce soir la Seine sur un fil tendu reliant la cathédrale à la tour des archives. Un défi réalisé à 90 mètres de hauteur. Nathan Paulin avait déjà battu le record du monde de distance de sa discipline au Mont Saint-Michel. C'était en mai dernier.
Je rappelle qu'on peut vous écouter sur Europe 1. Vous avez d'ailleurs interrogé pour Europe 1 Dominique Colonna.
Formidable. Dominique Colonna, l'un des derniers
de 58.
Vivant de 1958, la Coupe du Monde, où on termine troisième.
C'est le gardien de but.
Voilà, c'est lui qu'on voit à l'antenne. Piantoni, Jean-Vincent, Juste Fontaine. Vous voyez cette
image. Avec Jean-François Pérez pour Europe 1. Ça passe ce soir sur Europe à 20h.
Et on l'écoutera.
C'est un document exceptionnel. Il nous raconte comment c'était en 58 l'équipe de France de football. On l'a retrouvé à Corté.
Audrey Missirac a été à la réalisation, Jean-François Coudeau vous l'a arrêté au son, Ludovic Liebard a été à la vision. Merci à Samuel Vasselin et à Arthur Muriot. Je salue Françoise Boulin, cette chère Françoise qui nous écoute et qui dit bonne idée pour la fin de l'émission d'inviter Jacques, sinon on se flingue, dit-elle. C'est vrai que l'actualité est souvent rude, on l'embrasse Françoise. Jean-Marc Morandini dans une seconde.